soit numérique et tais-toi.
Le numérique nous rapproche de cette réalité.
Allez, je vais t'apprendre deux, trois petits trucs.
Le numérique matérialise la réalité qui nous entoure.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Tais-toi, va fada.
Le numérique, c'est avant tout du traitement de symboles.
Tais-toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Sois numérique et tais-toi, l'émission qui, chaque semaine, aborde en moins de 10 minutes une des multiples questions sur les technologies numériques et informatiques qui se trouvent dans nos administrations, dans nos villes et dans nos poches pour un monde smart, instantané et connecté. Et tant pis pour ceux qui veulent être simples, réfléchis ou qui n'ont pas la fibre optique. Nous continuons cette semaine à parler des moteurs de recherche, en s'intéressant cette fois à ce qui se passe dans notre tête. On a parlé de l'histoire, de la technologie, de l'économie. Eh bien, que diriez-vous si je vous parlais de sociologie? On a souvent tendance à penser qu'un outil nous permet simplement d'accomplir une action que l'on a choisie. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'un outil, comme un moteur de recherche, change notre manière d'être. À partir du moment où nous choisissons d'être guidés par une technologie, celle-ci transforme notre représentation du monde. Et personne n'y échappe. Dans le cas des moteurs de recherche, on parle de la création d'une bulle de filtre qui façonne notre vision de ce qui nous entoure en nous donnant des œillères. Mais alors, de quoi parle-t-on? C'est quoi une bulle de filtre? Nous avons vu que la réussite du moteur de recherche Google tient notamment à sa capacité à fournir une réponse pertinente aux yeux de l'utilisateur. Pour cela, le moteur cherche à acquérir une connaissance précise de nos profils afin de choisir des résultats affichés qui seront personnalisés pour chacun d'entre nous. Ce fonctionnement construit une bulle de filtre autour de chacun des utilisateurs. Ce terme fut popularisé par Eli Pariser dans son ouvrage de 2011 intitulé « The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You », qu'on peut traduire en français par « La bulle de filtre, ce que l'Internet vous cache ». Ce concept s'appuie sur l'image d'une bulle qui nous entoure et qui nous empêche de voir le monde dans son ensemble et nous montre les choses sélectionnées pour nous. Pour être plus concret, il nous faut un exemple. Prenons le cas de deux personnes. La première voyage beaucoup et a un pouvoir d'achat assez élevé. La seconde est une personne politiquement active en ligne. Si ces deux personnes cherchent le mot « Égypte » sur un moteur de recherche, il est probable que la première voit apparaître des informations sur des séjours touristiques et la seconde des informations sur les mouvements politiques dans ce pays. Dans cet exemple simplificateur, la première personne va percevoir l'Égypte comme une zone où l'on peut faire des croisières sur le Nil et la seconde comme un lieu politiquement instable et risqué. Mais si l'on poursuit sur cet exemple, on comprend le réel problème de la bulle de filtre. Chacune des personnes est renforcée dans ce qu'elle est déjà. Autrement dit, le profil du voyageur ne va pas être enrichi d'une vision politique sur ses destinations. Et le profil du politique ne va pas considérer ce pays autrement que comme une zone de tension. Ainsi, la nécessité de pertinence d'un moteur de recherche conduit à personnaliser les résultats et donc à enfermer les utilisateurs dans leurs convictions et limite l'ouverture à des points de vue nouveaux. Dans son ouvrage, Eli Pariser explique que les algorithmes de personnalisation sont conçus pour amplifier le biais de confirmation. Autrement dit, ils sont conçus pour nous envoyer des informations qui vont dans le sens de nos convictions, ce qui est facile et satisfaisant. A l'inverse, ces algorithmes vont éviter de nous brusquer et donc ne vont pas nous soumettre à des informations qui remettent en cause notre manière de penser et rendent difficile notre consommation de ces contenus. Toujours selon Pariser, nous avons tous un conflit en nous, entre ce que nous sommes, des gens qui veulent consommer des choses facilement, et ce que nous voulons être, des gens ouverts à plus de diversité. Dans ce conflit, les bulles de filtre nous écartent de ce que nous voulons être, alors que nous avons besoin des deux penchants. Par ailleurs, si nous parlons aujourd'hui des moteurs de recherche, il faut comprendre que la bulle de filtre est créée dans toutes les consultations en ligne. Les réseaux sociaux, les vidéos, la musique et même les cartes géographiques qui sont personnalisées. Sur ce dernier point, l'exemple le plus parlant est celui de la frontière entre la Chine et l'Inde que Google affiche différemment aux utilisateurs des deux pays. Pour un Indien, la région du Cachemire est clairement à l'intérieur de son pays. Pour un Chinois, cette région est marquée en pointillé pour signifier que c'est une zone disputée. Mais une recherche à travers Facebook est logiquement très personnalisée et constitue un autre exemple de bulle de filtre qui nous enferme dans les convictions de nos relations sociales. Mais alors, réfléchissons un instant. Est-ce que l'on peut sortir de notre bulle ? Eh bien, je ne sais pas vraiment, mais je ne pense pas que ce soit la bonne question. En effet, indépendamment de la technologie numérique, la sociologie nous montre que nous vivions déjà dans des bulles avant l'ère du numérique. Nous habitons certains quartiers, nous fréquentons certains amis, nous lisons certains journaux, et toutes ces activités sont guidées par notre appartenance à une bulle, ou, pour parler la langue de Pierre Bourdieu, notre classe sociale. Mais alors, pourquoi une bulle de filtre numérique pose problème ? Premièrement, dans une grande partie de la population, la vulgarisation sociologique a fait prendre conscience de notre appartenance à des groupes sociaux. Beaucoup d'entre nous intériorisent le fait que nous sommes influencés par notre entourage, notre milieu, à tel point que les contrastes entre classes sociales servent aujourd'hui de base à toute une catégorie d'humour. Donc, les divisions sociales existent déjà par ailleurs. Oui, mais elles sont maintenant plus fortes et plus rigides. Tout d'abord parce que cette bulle est un repli supplémentaire qui nous enferme encore plus dans ce que nous sommes socialement. Ensuite, parce que la prise de conscience n'existe pas encore aujourd'hui dans la sphère numérique. Du moins, elle semble très minoritaire, notamment parce que c'est un phénomène nouveau et les études sur ses effets sont balbutiantes. Donc, en l'absence de recul sur ce sujet, notre regard est biaisé, mais sans que nous en ayons totalement conscience. De plus, un moteur de recherche comme Google est aujourd'hui omniprésent. Il faut donc considérer le phénomène à une échelle plus grande. Des personnes peu éduquées, peu informées ou peu ouvertes sur le monde bénéficient aujourd'hui d'opportunités pour s'extraire de cette condition. À travers notre système éducatif, notre vie démocratique ou de nombreuses associations à vocation sociale, notre société cherche à fabriquer de meilleurs citoyens. Or, les mécanismes que nous sommes en train de présenter freinent ce travail en repoussant les personnes vers ce qu'elles sont ou ont été. À grande échelle, les conséquences sont désastreuses. Et c'est là qu'il faut parler d'autres exemples concrets. Les fake news, ou infox selon la traduction recommandée, sont un résultat de ces bulles de filtre. En effet, la propagation d'idées fausses est favorisée par l'absence de vision contradictoire. De même, la récente prolifération des théories du complot dans les populations jeunes et très actives en ligne est une autre conséquence de ces mécanismes qui tendent à radicaliser les idées déjà existantes chez un individu en l'enfermant dans un groupe qui confirme son opinion. Mais alors, et nous dans tout ça ? Est-ce que nous sommes des moutons ? Je ne sais pas, mais j'aime croire que non. En revanche, la sociologie nous montre que nous vivons en troupeau. Nous ne sommes donc pas naturellement ouverts au monde, et cela demande un effort de côtoyer des gens aux trajectoires différentes, d'expérimenter de nouveaux loisirs, ou de se confronter à des opinions opposées aux siennes. Les bulles de filtre des moteurs de recherche, mais aussi des autres sources personnalisées en ligne, rendent encore plus difficile cela. Heureusement, il existe une solution technique à ce problème de filtrage. Il suffit d'utiliser un moteur de recherche qui ne personnalise pas les résultats, comme par exemple Quant ou DuckDuckGo, dont j'ai déjà parlé, mais qui logiquement ne va pas vous donner les réponses habituelles de Google. Une autre solution consiste à utiliser le navigateur Tor que j'ai présenté en détail dans une précédente chronique. Comme il assure une navigation anonyme, lorsque vous n'êtes pas connecté à un compte Google évidemment, il ne peut pas personnaliser les résultats sur votre profil. Mais alors, vous, quand vous cherchez des images sur Google, c'est plutôt Braque Vasarely ?